Bonjour Julie Neveu.
Bonjour Sylvie.
On est avec vous pour parler de Avec la langue, manuel de survie linguistique qui est sorti aux éditions Grasset avec France Inter et dont il y a à l'intérieur des dessins de Jules. Et ma première question est la suivante. Quel rapport avez-vous au silence?
Je peux le vivre, le supporter assez longtemps, regardez.
D'accord. Est-ce que vous avez des mots particuliers pour justement exprimer le silence, ce qui ne se dit pas? Est-ce que vous avez un alphabet personnel?
Non, alors c'est intéressant que vous me posiez cette question parce que, en effet, dans le livre, j'aborde la difficulté qu'ont les humains et les adultes, d'ailleurs en général, peut-être à supporter un silence qui s'installe entre deux personnes. Non, moi, le silence qui me pose problème, c'est pas un vrai silence. Il y a un silence nourri de la présence des corps. C'est plutôt les tabous. J'en parle pas mal dans le livre, mais c'est-à-dire les non-dits. Et donc là, j'ai même un problème quasiment dans la vie qui est que quand je sens qu'il y a des évitements, des couvercles qui sont posés sur des situations, mais j'ai une urgence un peu particulière qui vient et je vais être l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Donc je vais dire les non-dits. Enfin, j'ai une petite tendance transgressive qui vient. Voilà, je vais pas faire ma psychanalyse ici avec vous, Sylvie, mais en tout cas, voilà, j'ai tendance à dire les mots. Vous voyez, j'ai des mots très expressifs, c'est-à-dire. Souvent, je vais dire les mots qu'il ne faut pas. Je vais dire des mots, des gros mots, par exemple. Vous voyez, j'ai un petit peu du mal à m'ajuster au cadre formel, aux mots attendus. J'ai tendance à, quand je sens qu'il y a un malaise, à aller dire, cracher la chose, quoi.
Et pourquoi c'était important dans ce livre d'avoir un chapitre justement sur ça?
Ben, parce que je trouve que ça fait partie vraiment de ce qu'on vit tous et toutes dans des situations très ordinaires, à savoir, ça peut être à l'échelle de la famille, à l'échelle du travail aussi, ou des amis, mais à savoir que des mots, que des gens banalisent peut-être des problèmes qu'on a, que on évite quoi d'aborder les problèmes qui font mal. Je parle de situations plutôt comiques aussi dans le livre, hein, parce que je parle de situations en fait que j'ai vécues et où ça a suscité une incompréhension. Et en fait, je voudrais essayer de faire comprendre pourquoi parfois ces incompréhensions, c'est des mécanismes qu'on a dans le langage et qui passent par le langage et qui ne nous permettent pas finalement de savoir de quoi ils retournent. Donc moi, la situation que j'aborde dans le texte, c'est quand j'étais à la piscine et tout ça est tout à fait vécu. Et je nageais, c'était mon petit moment dans la semaine de lâcher. Et au bout de 5 minutes, vous voyez, de me faire du bien dans la piscine, il y a eu une sorte d'urgence panique qui était des sifflets, des maîtres nageurs qui nous disaient « sortez, sortez !» Il y a un souci dans l'eau, il y a un souci dans l'eau. Non, il y a un souci d'abord. Et après, je dis, mais c'est quoi le souci? Il y a un souci dans l'eau. Et là, mon oreille de linguiste se dit, c'est bizarre, c'est quoi un souci dans l'eau? Et en fait, c'était un tampon qui avait été trouvé dans l'eau. Et donc, certes, il fallait sans doute évacuer la piscine parce qu'il y avait un petit problème hygiénique. Mais ce que je veux dire, ça, c'est symbolique, si vous voulez, c'est certes anecdotique, mais ça montre la façon dont. Par gêne sociale, on va plaquer un mot qui, marche pour toutes sortes de situations et qui ne dit rien de la situation spécifique et qui va pour nous faire réagir, c'est-à-dire la sortir. Mais là, du coup, moi, je croyais qu'il y avait un problème beaucoup plus grave. Vous voyez ? Et donc ça, c'est une des façons dans la vie où on peut utiliser des mots tout à fait banals et couvercles et qui masquent la... Vous voyez, j'aime bien qu'on soit précis, en fait.
Oui, parce que dans le livre, vous parlez aussi de diplomatie. Et je trouve que ça va avec, c'est-à-dire sur notre façon d'enrober le réel.
Oui, alors oui, il y a une autre fonction sociale, et celle-ci que je trouve, qui est pour moi bien plus justifiée, nécessaire. Et vous dites diplomatie, je crois que je ne dis pas tout à fait ce terme, je dis d'interaction, de compassion, d'empathie même. C'est-à-dire qu'il y a l'empathie au sens où c'est vraiment aussi percevoir la situation émotionnelle de la personne à qui vous parlez. Par exemple, si elle fait face à un deuil ou des choses comme ça, là, bien sûr que tout ce qui est euphémisme dans la langue, genre quelqu'un qui n'arrive pas à dire qu'une personne proche est morte, parce que ce mot est trop brutal, parce que l'expérience vécue est trop douloureuse. Et donc là, il va y avoir des mots vraiment qui permettent d'adoucir la réalité. Donc là, il y a plein de situations où des mots adoucissants, vous voyez, vont être... comme une lessive vont être un produit ajouté, vont être nécessaires et bienvenus. En fait, moi, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'on est très, très compétent linguistiquement et que souvent, dans la vie, quand on habite notamment un espace sur le territoire français, par exemple, eh ben, on est souvent renvoyé à des discours qui nous culpabilisent sur notre mauvaise façon de parler, nos erreurs, nos fautes de langage, alors qu'en réalité, on est hyper compétent dans plein de situations. On sait comment parler aux gens, on sait comment se faire comprendre, on sait comment éviter les problèmes, et parfois, bah, du coup, on masque les véritables problèmes et on accentue une situation d'isolement, de solitude, quand on perpétue des stigmates, mais parfois aussi, tout simplement, on est un acrobate quoi, de la langue. Et donc, je voulais montrer tout. C'est différent. Vous voyez, comme une boule à facettes, ce kaléidoscope aussi, qu'il y a plein de facettes implicites, donc de non-dits, pour revenir à votre question initiale, de silence, pas vraiment au silence vraiment verbal, mais de façon dont la langue réussit à contourner des sujets, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire.
Mais c'est pas la première fois, on le voit bien dans vos écrits et depuis longtemps, Julie Neveu, que vous auscultez la langue française avec un désir de nous passer un message, finalement, qui est celui que vous venez d'expliquer, hein, pour décomplexer, pour nous familiariser. Et je me suis fait la réflexion en lisant ce livre-ci, que ça doit être difficile quand on est linguiste et assez militant de ce qu'il y a de positif dans notre langage, de vivre dans un pays comme la France qui finalement semble assez élitiste sur son rapport à la langue.
C'est très intéressant. Je vous remercie de me poser cette question. En fait, le paradoxe de mon parcours que je raconte dans ce livre, hein, parce que j'ai l'impression de grandir, de vieillir du moins, mais de grandir aussi dans ce que je comprends du rapport des francophones à leur langue et de la spécificité en effet des Français par rapport à leur langue. Et moi, comme je raconte dans le livre, j'ai un itinéraire très privilégié, bien sûr, milieu aisé, une grande école. Et je suis arrivée, en fait, j'étais comme... ce qui est particulier, c'est que je suis arrivée... Enfin, j'aimais la langue comme l'aiment ceux qui, aujourd'hui, la défendent pour des mauvaises raisons. Enfin, n'ont pas compris ce que c'était. C'est-à-dire que moi, je viens de la littérature. Moi, j'écris des pièces de théâtre, je suis très sensible à la poésie. J'ai fait une thèse sur un poète anglais. Et plus ça allait, plus je m'apercevais que j'ai une sorte de tension, de conflit en moi entre une sorte de besoin de scientificité au niveau de la méthode pour comprendre ce qui se passe, comment les humains comprennent et sont affectés par une langue. Donc, c'est ça qui m'a amené à la linguistique. Cette science, cette façon de comprendre un système, vous voyez. Donc, j'aime aussi les phénomènes de syntaxe pure. Enfin, j'ai un côté scientifique comme ça. Et à la fois, j'adore la littérature. J'adore ressentir les effets du langage, vous voyez. Les émotions suscitées, la beauté. Mais en fait, les deux sont en tension. Et la plupart des gens qui pensent... en fait, je suis arrivée, donc, pour vous répondre pardon, plus clairement, c'est par cette culture littéraire et esthétique qui ne comprend pas scientifiquement ce que c'est que l'évolution d'une langue, que je suis arrivée à la linguistique. Et donc, j'ai mis du temps à décorréler. Moi, comme j'ai travaillé en anglais d'abord, je suis prof en linguistique anglaise, en littérature anglaise, tout en lisant et en réfléchissant aussi au français. Mais finalement, ça m'a permis, je crois, par ce biais-là, de comprendre la scientificité sans avoir des biais par rapport à ma langue maternelle. Où, en fait, bien sûr, que je suis attachée de façon affective, qu'il y a un capital socio-culturel. Il y a d'autres enjeux, mais ces enjeux-là ne se jouaient pas pour moi en anglais, voyez. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que je suis arrivée par ce biais-là et j'ai découvert avec stupeur, mais depuis qu'en fait je suis plus dans les médias, oui, l'hostilité, la dureté de ces discours sur ce que c'était qu'un français correct. Et la vérité, c'est que moi, j'avais pas été exposée, j'avais pas été sur la première ligne, donc j'étais pas militante puisque j'avais eu cette facilité de ne pas me voir reprocher ma qualité de français, puisqu'évidemment, j'avais eu tous les moyens d'accès les plus faciles au français. Vous voyez, j'étais une bête de concours d'orthographe que je n'ai jamais fait, mais je lis toujours énormément. Je veux dire, quand j'avais 5-6 ans, j'empruntais beaucoup de bouquins à la bibliothèque municipale, j'en lisais 5-6 par semaine. Mais je lis beaucoup très très vite. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que je suis avec une sorte d'hyper compétence du français, et donc je... Et pour autant, sans jamais moi-même avoir pensais que quelqu'un qui faisait une faute d'orthographe, c'était un problème. Mais par contre, je n'entendais pas que c'était des discours qui étaient relayés. Voilà. Et depuis que je suis arrivée un peu et que j'étais confrontée à des gens, notamment beaucoup d'académiciens qui venaient m'expliquer pourquoi c'était horrible, pourquoi la faute d'orthographe, c'était vraiment la preuve qu'on ne savait pas maîtriser le français, j'ai petit à petit compris quoi, quel était ce paysage, compris à quel point il y avait en effet en France, beaucoup plus qu'ailleurs dans nos espaces francophones, une sorte d'idéal dur, en pierre, cassant, douloureux, qui servait de levier de discrimination pour beaucoup, à l'égard de cette maîtrise qui était purement donc écrite, normée, et qui était très très loin de la réalité du français tel qu'il est parlé par les gens et tel qu'il est maîtrisé à l'oral. Donc c'est vrai que c'est devenu progressivement, doucement, hein, un cheval de bataille. Je ne sais pas si je suis militante parce qu'au fond, vous voyez, j'ai toujours eu envie de m'adresser à celles et ceux qui ont la position dure. Enfin, j'ai envie de faire comprendre à ces gens-là, mais parce que j'en viens, parce que je viens de cet amour de la littérature. Je veux dire à ceux qui pensent, qui disent « Ah, mais moi, j'aime le français, donc je le défends. » J'ai non, en fait, vous aimez le français, donc comprenez à quel point c'est précieux qu'on se parle, qu'on dise « Bon, ben voilà, du coup, pourquoi c'est nécessaire ?» Essayez de, un petit peu, de faire cette petite révolution copernicienne du langage. Oui, le centre n'est pas la norme écrite, qui d'ailleurs est beaucoup plus souple qu'on veut bien le croire. Mais la réalité d'un français maîtrisé, d'un français vivant, d'un français qu'on protégerait pour garantir son accès avec cet idéal démocratique et aussi profondément français, ben c'est aussi écouter nos variations. Donc écouter les variations, être capable d'écouter les variations, ne pas s'en inquiéter, défantasmer le rapport à la langue. Donc c'est vrai que voilà, c'était devenu un peu un de mes enjeux, en effet.
Parce que vous parlez de mouvement. Dans ce livre, on le voit bien. Finalement, vous dites le langage, c'est le lien à l'autre. Et par là même, c'est le mouvement. Alors, vous faites des images rigolotes, parce qu'on imagine bien, du coup, la France un peu comme un personnage qui serait avec ses cousins, qui sont francophones ou anglophones, qui s'empruntent des façons de parler, mais quand même la France serait la cousine un peu bégueule qui crache un peu dans la soupe et qui dit non, on bougera pas, on changera pas. Il y a quelque chose d'un peu réac quand même.
Ah bah bien sûr, mais il y a quelque chose de réac et qui est encouragé, on va dire nourri à tous les niveaux de notre construction, si vous voulez, pour celles et ceux qui entrent dans le français comme première langue de socialisation, c'est-à-dire par leurs parents, il y a ce capital affectif. Vous voyez, parmi les gens qui défendent beaucoup le français, il y en a qui disent « Ah oui, mais ma grand-mère, elle m'a appris à machin, à bien parler français. » Vous voyez, il y a ça. Il y a cette inquiétude viscérale et puis cet amour de rendre hommage à un patrimoine. Mais en fait, c'est une erreur encore sur même historique, puisque le français, des collègues comme Gilles Siouffi le montrent tellement bien. Enfin, en fait, il s'est construit dans cet amalgame, dans ce métissage. Lui, il parle de métissage dans son livre « Paris-Babel qui est magnifique là-dessus. En fait, le français a toujours été métissé, sauf qu'on l'oublie. Et c'est plus facile de l'oublier en France parce que on n'a pas encore, le fait que le multilinguisme est en fait à l'échelle internationale beaucoup plus la norme que le monolinguisme. Ça, c'est quelque chose dont on n'est pas tout à fait conscient encore en France, dont on ne rend pas à quoi on ne rend pas justice, cette réalité multilingue. Vous voyez, en fait, la plupart des locuteurs, des locutrices à l'échelle planétaire, et même les francophones, ils sont dans des situations de multilinguisme. Donc, ils parlent différentes langues à la maison, au travail, et il n'y a pas de problème. Et ça ne fait pas perdre une capacité. Au contraire, vous voyez, on est capable, plus on parle de langue, mieux plus on est souple. Donc oui, pour le bagel, je suis d'accord, tout à fait. Et puis, c'est oublié aussi les voyages, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui s'empruntent entre l'anglais et le français énormément, ils reviennent. Enfin, je ne vais pas en citer là, parce qu'il y a plein de collègues qui le font et que je ne le fais pas dans ce livre. Mais il y a beaucoup, je sais pas, il y a tellement d'exemples de mots qui reviennent et qui ont fait partie, en effet, du répertoire français, qui sont arrivés dans la langue anglaise et qui nous reviennent.
Et pour le dire, je trouve que ce qui est intéressant dans votre livre, c'est l'intervention de Jules, finalement, parce qu'il y a le côté illustrons et sourions. Et je me suis demandé si c'était vraiment deux ressorts sur lesquels vous appuyez le contexte de votre propos. Illustrer et sourire.
Oui, en fait, l'humour pour moi, ça paraît tarte à dire comme ça, mais c'est tellement important déjà, je crois que c'est quelque chose. Je suis quand même prof depuis 20 ans à peu près. Et alors, bah, en cours, presque un jour, je vais faire un livre de pédagogie pour dire pourquoi l'humour est nécessaire. Non, mais c'est-à-dire que moi, j'enseigne donc cette matière qui est un blocage pour beaucoup d'étudiantes et d'étudiants. La grammaire, vous voyez, en fait, la linguistique, c'est de la grammaire avec une sorte de dimension philosophique, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi le nom, pourquoi l'adjectif, pourquoi le verbe, qu'est-ce qu'il représente de notre réalité et comment il découpe, il catégorise et il permet de donner une vision du réel. Tous les mots font ça, toutes les catégories de discours font ça. Bon, et donc, souvent, j'ai face à moi des gens qui résistent un peu. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un parallèle avec ces gens qui disent « Ah, mais il ne faut pas faire de faute d'orthographe » avec cette notion de faute très culpabilisante qui est complètement judéo-chrétienne aussi, hein, qu'on a chez nous. Pourquoi on ne dirait pas « erreur » en maths, vous voyez, comme en mathématiques, vous voyez, c'est quelque chose d'intéressant. Et donc, j'ai l'habitude d'avoir des regards, vraiment, hein, si vous voulez, les premiers cours, j'ai vraiment des étudiants, je retire mes lunettes pour vous montrer, vous voyez qu'ils lèvent les... je comprends rien, vous voyez, j'ai beaucoup de gestuels, genre « Oh là là, au secours, la grammaire !» Et donc, ben, j'ai remarqué un truc tout simple, c'est que si vous faites des blagues, d'un coup, le cerveau se détend, vous avez gagné une sorte de confiance, de laisser aller, et là, d'un coup, la compréhension peut arriver sur cette détente-là. Dans la crispation qu'ont les gens, il y a ben, plus de difficultés à comprendre un argument, en fait. Et donc, je fais passer des idées, mais vraiment, je pourrais... vous faire la liste, mais ce serait très vaniteux, mais des élèves qui, chaque année, me disent oh, qui sont tellement heureux d'avoir compris quelque chose qui pour eux, était tellement compliqué quand ils étaient élèves et qu'ils ont été coincés parce qu'il y a eu peut-être un apprentissage de la grammaire compliquée, qu'ils étaient des élèves qui faisaient des fautes d'orthographe, justement, qui ont été inhibés au niveau de l'acquisition du français et de la maîtrise écrite, et qui donc sont dans cette inquiétude, ce qu'on appelle, nous, le sentiment d'insécurité linguistique, c'est-à-dire la peur de mal parler, la peur de mal écrire, des gens qui ne font pas d'email parce qu'ils ont peur de faire des fautes. Vous voyez, ça, c'est énorme. Et je le vois déjà, en fait, moi, dans mes cours. Donc, c'est pour dire que, oui, l'humour est important. Et pire, c'est une stratégie. C'est pas que, ah, on va se marrer, je vais essayer de vendre plus le livre, ce qui est aussi, évidemment, un espoir, je dirais. Mais vraiment, d'abord, c'est une méthode. C'est une méthode et un espoir. Et surtout, c'est un constat. Ouais, que ça marche tellement mieux quand on se détend, parce que ça décale le regard, en fait. Ça décale de « est-ce que je vais être capable, moi ?» Est-ce que ça sape ce rapport de domination qui est pareil, d'une autre façon, un ressort de notre éducation spécifiquement française. Et là, pour le coup, je vous parle peut-être en tant que prof qui a fait ses armes. Moi, mes deux premières années d'enseignement, c'était en Angleterre, où là, c'était encore très hiérarchique, où je donnais des cours de français, voilà. Et c'était à Los Angeles, où là, j'ai fait une année d'enseignement, et j'ai compris ce que c'était que l'enseignement à l'américaine. Et vraiment, j'ai bénéficié, je crois, de... j'allais suivre des cours de philo, de linguistique, avec des profs qui arrivaient en t-shirt et avec des tongs, et qui s'asseyaient sur les tables. Et bien sûr, c'était un petit peu caricatural. Et bien sûr, même moi, vous voyez, mon côté français, bagel, je suis là, vraiment, est-ce que j'ai besoin qu'il s'assoie sur la table et qu'il m'apporte ses cookies, par exemple? Est-ce que j'ai besoin de ça? Ben, en fait, oui, ça apportait tellement sur la relation de confiance et l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de conversation. Voilà, il y avait une conversation. C'était plus, moi, je vais te dire quelque chose, et vous allez le comprendre à toute force, c'était « Ok, on peut discuter, et au détour de cette conversation, et on va me prendre comme quelqu'un de potentiellement intelligent, capable de... » En fait, voilà, « empouvoirant » avec ce terme. Oui, ça donnait du pouvoir à la personne qui écoute. Et donc, l'idée de l'humour et de la conversation, c'est vraiment aussi décaler, s'écarter du rapport hiérarchique. Ok, je suis prof à la Sorbonne. En fait, je m'en fiche, j'aurais pu être autre chose. La vie a fait que je suis... Voilà, moi, en fait, je fais aussi du théâtre. J'adore ça. J'adore les espaces où la parole est mise au centre et qu'on peut entendre tranquillement ce qu'elle veut nous dire et qu'on peut comprendre pourquoi elle nous fait de l'effet à un moment ou à un autre. Voilà, je dirais que c'est ça. Moi, ce qui est sacré pour moi dans la vie, c'est pas les murs de la Sorbonne, c'est pas la position de prof, c'est les interactions douces et signifiantes. Où quelqu'un va dire des mots, va pas se sentir en danger d'avoir le courage de dire cette parole et que ça va être reçu sans qu'on le censure, le casse ou le stigmatise parce qu'il aura dit tel mot. Voilà. Et donc, pour revenir à Jules, ben, j'étais tellement heureuse qu'il ait accepté de faire ses dessins. Parce que, ben oui, c'était parfait. C'était parfait parce que... Alors, c'est l'éditrice, mon éditrice, Chloé Deschamps, hein, qui me l'a proposé, qui était contente qu'on aille vers l'humour encore plus, quoi. Elle disait, bah, tes textes sont super drôles, allons-y. Je dis, bah, carrément. Et là, Jules était d'accord et c'était merveilleux parce que vous avez vu que... Donc, non seulement il y a l'humour qui est franc, et surtout, il ajoute un regard encore plus décalé par rapport à ce que je raconte. Et ça, c'est fou. Quand j'ai vu ces dessins, j'étais tellement émerveillée et reconnaissante. Et j'étais comme une enfant, en fait, parce qu'il avait redécalé. Donc, d'un coup, quelque chose, par exemple, ma chronique sur les... Enfin, mon texte sur les... Parce que ça vient des chroniques qui ont été retravaillées. Mais le texte, le chapitre sur les interactions dans un ascenseur. Ou pourquoi on se trouve... En fait, c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé, notamment quand j'ai vécu en Grande-Bretagne, où littéralement, j'ai passé des dîners à parler de la météo. Et je me disais, c'est fou. En fait, d'où ça vient? Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Bien sûr qu'on sait que c'est pour mettre à l'aise et tout, mais pourquoi plus profondément, il y a un enjeu social à trouver des terrains de discussion qui sont les moins offensants possibles. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait des réponses par la linguistique pragmatique, qui est la linguistique qui s'intéresse à comment certaines paroles, discussions vont être menaçantes. Menaçantes pour ce qu'on appelle la face de l'interlocuteur et de l'interlocutrice. C'est-à-dire, elles vont menacer son image sociale, elles vont le mettre en danger. Et il y a des sujets qui sont moins, évidemment, qui sont comme un boulevard quoi, de non-menaces. Voilà. Et donc lui, il lit ça, il travaille dans son coin, et là, il m'apporte une image de type commandant Cousteau, le monde du silence, avec un poisson et des bulles, et des gens qui sont là dans ce milieu qu'il partage. Donc, vous voyez, dans son image, mais d'un coup, il littéralise la blague sur l'écosystème, le milieu qu'on partage avec l'eau. Et c'est poétique d'un coup. Et à la fois, la difficulté, il y en a un qui a sa combinaison sous l'eau, là. Donc, je trouve ça trop drôle et beau. Et ça aussi, ça nous permet d'avoir un autre angle, d'arriver avec un autre angle sur la même situation.
Parce que ce qu'on voit bien, quand je parlais de France un peu réactionnaire, et ce qu'on voit bien dans votre texte à nouveau, c'est que non seulement... C'est mal vu de faire des fautes d'orthographe, ce serait synonyme de moins d'intelligence, donc ce qui est aberrant, vous l'expliquez bien. Mais en même temps, ce qu'on voit bien aussi, c'est que la langue française est particulièrement difficile. Donc c'est en plus presque contradictoire. Mais du coup, ça pose une autre question que vous évoquez dans votre livre, c'est l'évolution des mœurs. Puisque vous prenez des exemples, moi je pense à Kanta aussi par exemple, l'affaire Kanta, et sur notre évolution du vocabulaire, qui change aussi parce que, par exemple, sur l'amour, alors vous avez fait un livre particulièrement sur l'amour, mais vous revenez quand même un peu sur ces sujets-là dans ce livre-là, hein, sur ce qui fait qu'on va parler d'amour différemment, non pas parce que le fait d'aimer a changé, mais le fait de vivre l'amour a changé, en tout cas, est en mouvement également. Et finalement, alors quoi? Cette résistance à la langue, c'est aussi une résistance à l'évolution des mœurs?
Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, j'essaie de... C'est très, très simple. C'est-à-dire, c'est... En fait, à tous les niveaux, c'est une résistance idéologique, c'est une résistance à la domination économique par rapport aux anglicismes, ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de résistance sur les mots anglais, et en fait, ils traduisent une haine qu'on peut tout à fait comprendre d'un certain système business économique, de ce jargon. Enfin, il y a toutes sortes de domaines où, en fait... Vous savez, comme quand on dit, mais c'est quoi l'amour? Est-ce que c'est la peur d'être seul? Est-ce que c'est la peur de ceci, cela? Enfin, je dirais, la résistance au changement linguistique, c'est le chapeau de toutes sortes d'autres résistances beaucoup plus profondes, évidemment. Et donc, c'est ça que j'essaie de dire, c'est-à-dire regardez ce qui vous pose réellement problème. Adressez le vrai problème, regardez le vrai problème plutôt que de vous jeter sur la langue qui n'en est que le miroir, qui n'en est que le reflet, bien sûr. Et donc, pour parler de l'amour, oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'on a, de la même façon qu'aujourd'hui, on ne dit plus le terme pédophile, mais on dit pédocriminel pour acter la réalité de ces actes, la violence de ces actes est passée par le cadre légal, juridique, voyez. De la même façon, on ne va plus parler de la même façon de l'amour parce qu'on a compris. Enfin, c'est-à-dire celles et ceux qui ont compris, qui ont fait le chemin d'accompagner ces changements, de comprendre les rapports de domination, le sexisme, etc. En fait, plus on est déconstruit, on va dire, plus on a une oreille attentive à ce que portent des propositions de changement, en réalité. Donc ça, si on parle de cette crispation à l'égard du point médian, que j'utilise de façon très modérée, mais que j'utilise néanmoins dans le livre, ce qui n'était pas évident, je me suis demandé. Moi, j'aime bien l'utiliser à dose très modérée, mais parce que je trouve que c'est une des propositions qui sont disponibles aujourd'hui pour justement montrer comme un petit geste d'attention à cette idée d'égalité dans les genres et de visibilité égale. Après, eh ben, peut-être que ce n'est pas une bonne idée, parce que ça, si vous voulez, par rapport à l'idée du militantisme, ben, peut-être que c'est trop militant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à doser quand on écrit des livres, qu'on essaie de parler sur le langage, c'est renoncer à certains gestes militants parce qu'ils sont trop mal perçus par la majorité. Et du coup, voyez, je me rends hostile à une majorité qui pourrait tout à fait être d'accord, en fait. Donc c'est très délicat de mesurer voilà, ce qu'il faut faire comme révolution linguistique pour ne pas heurter et pour accompagner ceux qui seraient déjà en fait convaincus, mais qui s'arc-boutent, qui se crispent sur des micro-changements qui sont pour eux trop visibles.
Ça veut dire qu'il y a des choses que vous vous interdisez d'écrire ?
Bah, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'écris pas encore tout à fait... Non, je m'interdis pas. En fait, c'est pas l'interdiction, c'est je dose, c'est un dosage. C'est un dosage. C'est un dosage et on a tous des réponses différentes à ça. Mais par exemple, parfois, j'ai envie d'écrire celle-e et je le fais pas encore. Je mets celles et ceux. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des petits niveaux d'acceptation. Et oui, pour vous répondre au début de votre question, il y a des seuils d'acceptabilité et ils progressent doucement. Et parfois, si on va très, très fort, ça se retourne contre nous. Je veux dire, l'idée d'accompagner l'évolution. Et donc, parfois, il vaut mieux être patient. Et puis moi-même, j'ai, pour un exemple très concret, de se faire appeler auteur, auteure ou autrice par rapport à ce changement. Ben moi, pour mon premier livre, je préférais qu'on m'appelle auteure. Et puis aujourd'hui, je trouve ça bizarre. Je suis là, ah ouais, j'étais frileuse quand même. C'est que je faisais mon chemin tout doucement. Maintenant, je préfère autrice, et largement. Et puis, quand j'ai été recrutée, moi, dans mon poste, eh ben, j'étais un poste de maître de conférence. Donc, sur mes badges de la Sorbonne, c'est maître de conférence. Et ce que ça me choquait quand j'ai eu ce poste, c'était en 2010. Je faisais déjà cours, mais j'avais pas cours là-bas, mais j'avais pas le poste. Ça m'a pas du tout choquée. Aujourd'hui, je suis là, mais comment ça, maître de conférence? Je suis maîtresse de conférence. HDR, voyez, j'ai mon titre là. Je voudrais pas qu'on dise que c'est maître, mais j'ai des collègues femmes qui ça dérange pas du tout et qui vont continuer à défendre, à comprendre maître comme ce fameux emploi qu'on a beaucoup appelé celui du neutre. Il y a un emploi générique, c'est-à-dire maître, ça vaut pour tout le monde. Moi, je peux plus. Pour moi, c'est seulement le masculin. Vous voyez, ça, c'est des évolutions. Donc, elles sont personnelles. Elles sont... En fait, moi, ce que j'essaie de dire dans le livre et à chaque fois que je peux, c'est laissons les gens parler comme ils peuvent, comme ils veulent, comme ils peuvent plutôt que comme ils veulent, parce que parfois ils ne savent pas ce qu'ils... C'est-à-dire, ils ne sont pas conscients des enjeux, c'est-à-dire de la littérature autour de ça, des réflexions. Mais moi, ce qui me va bien, c'est une société où moi, je peux dire maîtresse et que ça n'agace pas maîtresse de conférence, qu'à côté de moi, mes collègues femmes ou hommes qui le veulent puissent continuer à dire maître sans que je leur en veuille et sans que ça m'agace. Voilà, où on cohabite à différentes étapes de nos emplois linguistiques. Donc, une fois de plus, la variation. En gros, oui, la crispation, elle est sur l'absence de variation en France francophone. Et aussi comprendre, vous disiez bagel, en gros bagel, ce qu'on a, nous, les Français de France, les francophones de France, pardon, c'est un double complexe, en fait. C'est ça qui est fou et c'est ça dont j'ai ressenti l'épaisseur et la dureté. Depuis une dizaine d'années que je fréquente un peu d'autres paroles dans les médias, on va dire, c'est le complexe de supériorité. Ok, on parle mieux que les autres francophones. Non, en fait, on parle d'une certaine façon. D'autres francophones parlent d'une autre façon. Acceptons cette variation et acceptons de nous concerter ensemble pour que la norme soit moins adossée aux francophones de France. Voilà. et un complexe d'infériorité qui va avec, comme souvent, vous savez, quand on dit je suis le meilleur, bah, y a un enjeu à parler bien, et si on parle moins bien, on s'auto-censure en fait. Donc le complexe d'infériorité, voilà, c'est les bifaces, quoi. Et moi, j'essaie de nous ramener dans un centre. Vous voyez, là, il y a le complexe de supériorité, il y a le complexe d'infériorité. Je trouve que l'harmonie, elle est au milieu, et que c'est plus doux, que c'est plus facile à vivre, c'est plus joyeux, et on peut en rigoler, et tout va bien.
Et en même temps, on a des chances d'y arriver, si je vous ai bien lu, puisque vous dites qu'on n'a jamais été aussi bavard. Entre les SMS, les messages vocaux, finalement, on parle beaucoup, on utilise beaucoup la langue.
Oui, ça c'est une... Disons que j'essaie de, une fois de plus, de retourner toutes les paniques morales qui sont adossées à regarder, on sait plus écrire. Vous voyez, beaucoup de parents qui disent « Ah, mes ados savent plus écrire » avec les écritures sur les écritures numériques, ce qu'on appelle les écritures numériques. Et en fait, j'essaie aussi de rappeler quelque chose, mais comme tous les membres du collectif dont je fais partie, hein, vous l'avez pas encore nommé, mais donc le collectif des linguistes atterrés, là, pour le coup, on a un combat, une cause très, très commune, et une fois de plus, avec des études là-dessus, scientifiques, c'est-à-dire que c'est une illusion d'optique. En fait, les gens qui paniquent en disant « on ne sait plus parler », c'est parce qu'ils voient. Ils n'ont jamais vu autant comment on s'écrivait, si vous voulez. Et non seulement ils voient, et en plus, puisqu'on peut regarder, on ouvre les réseaux sociaux et on voit comment les gens s'écrivent. Et donc, il y a un effet d'affolement. Genre, ah là là, mais il y a des fautes partout. Et donc, nous, on répond, bah, en fait, il y a des fautes partout, mais parce que vous voyez comment les gens s'écrivent. Et surtout, parce que si on prend des corpus comme les lettres des poilus qui ont été très étudiés par certains collègues, donc les lettres écrites par des soldats pendant la Première Guerre mondiale, Il y a beaucoup plus d'erreurs. En fait, il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui savent écrire, qui écrivent. Voilà. Donc, en fait, il y avait autant de fautes, mais on les voit plus. Et par ailleurs, c'est un nouveau code. C'est-à-dire que ce que j'essaie de dire, c'est qu'oui, on n'a jamais autant conversé. Il n'y a jamais eu autant de conversations. Les conversations sont continues. Est-ce que c'est un bien ou un mal? Enfin, je veux dire, d'un autre point de vue, qui est la captation de l'attention, notre fatigue informationnelle, la violence, évidemment, toutes les difficultés qui sont liées à la pratique continue des réseaux sociaux, tout ça. Et pour les plus jeunes, ça, c'est un autre domaine et je n'en parle pas. C'est-à-dire que moi, je parle seulement du point de vue linguistique parce que, bien sûr, il y a des horreurs et des difficultés terribles qui sont voilà, adossées à ça. Mais moi, je ne parle pas du fait que... je ne parle pas de ça, je ne parle pas de l'impact psychologique, je parle de la qualité de la langue. Et la qualité du français n'est pas du tout altérée, évidemment. Elle est, au contraire... je veux dire, on peut se réjouir de cette capacité à communiquer et à écrire en permanence. En effet, on n'a jamais autant écrit les uns les autres, ça c'est sûr.
Et puis communiquer, alors vous dites-vous que vous aimez beaucoup les vocaux, parce qu'il y a aussi les hésitations et l'ambiance. Alors du coup, ça amène à autre chose dans votre texte, Julie Neveu, c'est ce qu'on met comme charge émotionnelle dans notre rapport oral ou écrit.
Bah oui, moi c'est mon dada, parce que c'est vraiment ce sur quoi je travaille dans ma recherche, à savoir... vraiment l'expressivité, c'est-à-dire comment on arrive à transmettre de l'émotion dans nos messages, mais du coup, particulièrement quand on a, il n'y a pas les corps, c'est-à-dire comment on fait, là on se voit, bon, il y a quand même un écran, mais on voit un bout de corps, si je suis trop, très, très émue ou en colère ou émue, je vais pleurer, vous allez avoir d'autres signes de mes émotions. Mais quand il n'y a que l'écrit, que ce soit sur nos textos ou sur nos mails, et bien sûr, avant les lettres, enfin, toutes les formes écrites, ben, j'essaie de réfléchir depuis que je suis petite, pourquoi est-ce qu'on est ému quand on lit des romans? Donc c'est aussi, ça fait le pont avec ce qu'on disait plus haut, que moi je suis arrivée par la littérature, donc c'est aussi ce sur quoi je travaille. Pourquoi les personnages de fiction, on leur donne un corps? Pourquoi on s'intéresse à eux? Pourquoi on est ému? Pourquoi on pleure avec Emma Bovary? Pourquoi on... Vous voyez, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que fait le langage pour pallier l'absence des corps? Comment est-ce que notre esprit... donne des corps aux personnages de fiction, de papier. Bah ça, c'est mon cœur, bah c'est le cœur de ma recherche, j'adore. Donc j'ai fait tout un modèle théorique d'expressivité, et donc j'ai identifié trois mouvements. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas développer trop de dérivés là-dedans, parce que c'est un peu compliqué, mais en gros, il y a trois mouvements. Il y a les interjections, oh, ah, waouh, dingue, ouf, vous voyez tout ce que vous exprimez. Donc ça, c'est une façon déjà de marquer... l'émotivité comme d'un geste, vous voyez, c'est là où le langage est le plus gestuel, le plus corporel, quelque chose de très bref, avec des points d'exclamation. Donc toute la ponctuation, tous les émojis servent à dire une forme de réaction ponctuelle et émotive. Donc ça, c'est ce qu'on a dans nos, voyez, dans nos interjections, dans nos interactions d'ordre interjeté. Il y a aussi ce que j'appelle l'augmentation, c'est-à-dire la façon dont on met plus de langage, donc dont on répète, par exemple, pour le, sur le plan de la matière linguistique. Donc si je dis vite, ou « oh non, non, non », vous voyez, avec ou plusieurs émojis, ça, c'est la répétition. La répétition, ça fait partie aussi d'un de nos moyens linguistiques pour montrer qu'on est ému, qu'on est ému, ou qu'on est très à l'écoute, qu'on est très réactif. Et puis, le dernier mouvement que j'ai pensé pouvoir identifier, je l'ai appelé désaligné, c'est-à-dire c'est les désalignements. Et là, c'est tout ce qui est métaphore. Métaphore, c'est-à-dire que vous dites à quelqu'un, vous n'allez pas bien, vous vivez un truc atroce, il vous demande comment ça va, vous dites c'est un cauchemar, c'est un vrai cauchemar. Et ça, c'est encore de l'intensité émotionnelle, parce qu'évidemment, vous n'êtes pas en train de rêver. Donc, ce n'est pas littéralement un cauchemar. Hein. Donc, vous allez chercher du côté des images qui projettent une expérience très, très forte, très puissante. Si ça intéresse les gens qui regardent cette vidéo, j'ai fait une interview sur France Culture la semaine dernière sur la métaphore, où je parle de pourquoi la métaphore est le moyen linguistique qui permet de rendre des expressions, des expériences singulières et incarnées. Vous voyez, il y a tout un domaine de l'expérience qui est convoqué. Donc, ça marche très bien. Et donc, tout ça, pour vous répondre plus, de façon plus synthétique, ces trois moyens, c'est des moyens par lesquels on va dire nos émotions à l'écrit. Et donc, on les utilise très, très ordinairement hein, dans tous nos... Et c'est les moyens qui sont surexploités dans la fiction parce qu'ils nous permettent d'imaginer, d'incarner, de ressentir les émotions des personnages, de penser qu'ils ont un corps. En fait, l'idée, c'est vraiment comment le langage a cette... Mais vous voyez, ce truc inouï, magique, que les humains ont réussi, bien sûr, à injecter dans le langage. C'est-à-dire qu'à partir du code écrit, il le bouscule. Donc, le désaligne pour montrer un point de vue incarné et dévoiler des paysages imaginaires. Parce que par empathie, on sait, ayant vécu aussi des expériences, on sait que ces mots-là vont nous mener dans ces paysages imaginaires-là. Donc, il y a toute une palette infinie de jeux avec la langue qui permettent de comprendre les émotions de l'autre et de se mettre en lien avec lui.
Il y a un chapitre dans votre livre où vous poursuivez cette réflexion-là sur les injures. C'est très intéressant. Oui. Vous dites que l'injure, c'est le moment où physiquement, on utilise presque un autre mot qui serait un mot physique pour raconter une émotion.
Oui, tout à fait. Je m'intéresse aussi beaucoup aux injures dans ma recherche parce que, d'abord, une fois de plus, comme je le disais tout à l'heure, moi, elles me viennent... Non, pas les injures. D'ailleurs, vous avez dit injures. Les jurons. Ce qui est différent parce que, enfin, oui, ce qui est. Mais non, je précise parce qu'en effet, injure, donc là, il y a de l'agressivité à l'égard de quelqu'un. Or, c'est très, très différent. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, mais c'est un autre sujet. Là, il y a vraiment de la violence verbale qui est adressée. Et je pourrais en parler aussi pourquoi c'est important. Mais dans le bouquin, je parle des jurons. Pourquoi on va dire merde ou putain quand on est très, très mal Pourquoi c'est ça seulement qui va pouvoir. À la fois être cathartique, c'est-à-dire vous libérer d'une tension émotionnelle, physique forte, et à la fois être à la mesure, être à la hauteur de cette intensité. Et donc l'idée, et à ce stade de mes recherches, c'est quand même un peu encore une hypothèse, mais ça paraît à la fois hyper banal, vous savez, comme souvent, c'est un peu inconfortable et étrange, parce que parfois je suis là, mais attends, évidemment que c'est hyper facile, c'est très évident, et à la fois pour le démontrer, c'est pas si facile, et il n'y a pas tant de chercheurs qui l'ont fait. Mais donc l'idée, c'est que vous avez, à un moment donné de l'histoire, et une fois de plus, c'est très historiquement situé cette affaire, un mot, deux, trois, pas tellement plus. Aujourd'hui, en français, c'est putain et c'est encore merde qu'il fait depuis très longtemps. Hein, pardon de dire des gros mots du coup dans cette vidéo, mais il n'y en a pas tant qui ont cette charge transgressive et expressive forte, ce que j'appelle une charge expressive. Si vous dites zut, flûte, ben non, si je me fais super mal ou si je suis en train d'accoucher, puisque c'est l'exemple que je prends dans le livre, je ne vais pas dire zut et flûte. Je ne vais pas du tout dire zut et flûte, en fait. Ils ne vont pas être à la hauteur. Merde à la rigueur et putain, oui. Voyez et chacun, d'ailleurs, je dis ça, mais c'est pour moi. Mais quand même, à un moment donné, la société partage quelques jurons, on va dire, les plus expressifs. Donc en anglais, c'est fuck, et toute ma recherche en anglais parle beaucoup, beaucoup de fuck et de fucking, parce que ils ont beaucoup plus de souplesse syntaxique, en fait, en anglais. Donc fucking peut se mettre au milieu d'un nom composé, vous savez, comme dans Jesus fucking Christ. ce que nous, on n'a pas. Donc, le français étant plus rigide, on ne peut pas l'insérer. Mais le fait d'insérer, c'est une autre façon de désaligner, si vous me suivez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Donc, en fait, ce qui est fou et passionnant, je trouve, c'est qu'on va aller chercher les mots dans le lexique qui ont un résidu de transgression sociale, voyez, qui ont emmagasiné un capital culturel et social de transgression. Et c'est ceux-là qui vont pouvoir servir de jurons pour être à la mesure de notre intensité émotionnelle. Et en réalité, putain, par exemple, on pourrait dire ce que j'ai dit ailleurs, d'ailleurs dans les médias, que bah, pourquoi on prend ça, c'est, vous voyez, si on est féministe, on est un peu embêté que ce soit ce mot-là, puisque c'est un mot qui porte une charge stigmatisante, bien sûr, pourquoi toujours les femmes, etc. C'est une putain, ça vient de là, vous voyez. Mais il y a eu ce glissement sans idéologie. C'est pour ça que la langue n'est pas idéologique dans ses fonctionnements. Elle est pratique. La langue, eh ben, il y a un moment, qu'est-ce qu'il y a de pratique pour dire une émotion qui, où tout le corps est en proie à un conflit, voyez, eh ben, il va puiser là où il y a de la transgression. Et eh ben oui, si, même si on est féministe, on va dire putain. Et on n'entend pas, là, bien sûr, que la charge stigme. On exploite ce mot pour sa charge transgressive, voyez. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi le juron, pourquoi on a besoin de jurer, donc, quand on a mal, ça, c'est toujours ma réflexion sur le fait qu'il y a un conflit entre le corps et le langage. Ça revient un peu au silence, à votre question sur le silence du départ. C'est-à-dire qu'en fait, on oublie comme on est des êtres civilisés. Okay, on oublie finalement que dans beaucoup de situations ordinaires, il n'y a pas de conflit. Enfin, pour nous, on est là, ah, je suis capable de vous parler. Là, regardez, je suis dans un fauteuil, j'ai mis mes lunettes, j'ai ma petite veste. On est toutes les deux, on a un capital, on s'est posé des questions, on essaie d'y répondre et tout. Et donc, les mots nous viennent facilement. Mais quand même, on a l'habitude aussi de vivre des émotions où émotionnellement, on est impliqué. Et là, les mots nous résistent, on ne sait plus quoi dire, on a perdu ses mots, notre cerveau voyez, on n'arrive pas à dire. Et on dit des petits bouts de mots et on part, on dit « Ah, j'aurais dû lui dire ça, j'ai pas réussi ». Voyez, en fait, notre émotion est venue en conflit avec notre capacité à dénonciation, c'est-à-dire à articuler un énoncé, à dire sujet, verbe, complément. Et c'est pour ça que toute l'émotion, souvent, et même quand elle est travaillée par des auteurs et des autrices qui savent, qui ont cette sensibilité au langage, elle a besoin de bousculer, de mettre du mouvement dans la langue. Et donc le juron, il est juron, il est grossier, en fait, il est vulgaire. Pourquoi la vulgarité est la seule qui va pouvoir sortir l'émotion? Parce que c'est celle qui dit le conflit. C'est ce conflit-là, vous voyez, il est symbolisé dans ces mots, le conflit entre le corps et le langage, parce qu'en fait, c'est là qu'il y a eu une tension, parce qu'on n'a pas le droit de le dire, normalement. Vous voyez, il y a la norme ici. C'est le mot qu'il ne faut pas dire, et donc c'est le mot qu'on va dire quand on est en conflit, quand il faut franchir, transgresser ce qui peut être dit, parce que notre situation est une transgression, notre corps se révolte contre les limites qu'impose le langage. C'est l'endroit où il y a le plus de contraintes exercées par le langage normé, voyez, et où notre corps est le plus animal, en fait. Et donc, dans ces moments d'animalité du corps, on va là, on va dans la fange du langage, on va dans le scato, on va dans... Et ce qui est merveilleux, un jour, j'adorerais avoir le temps de le faire, c'est évidemment les spécificités culturelles et linguistiques. Donc, en allemand, il y a Scheiße, ils sont scato aussi, mais il y a d'autres langues. Donc, c'est plus sexuel en anglais avec fuck. Vous voyez, on a des domaines privilégiés par où on va dans la fange du langage. Et ça, c'est assez réjouissant, c'est assez drôle.
Parce que vous le dites bien hein, dans votre livre, vous dites que finalement, quand nous parlons, nous réfléchissons en même temps que nous sommes dans l'action. C'est-à-dire, c'est la pensée et en même temps l'action qui se heurte.
Oui, en fait, ce que j'aime bien, merci parce que ça me permet de dire quelque chose sur la différence fondamentale qu'on oublie souvent entre l'écrit et l'oral. Et l'erreur qui est faite une fois de plus par ce qu'on appelle les puristes en linguistique, c'est-à-dire, mais les puristes, moi, je le suis un peu et j'en viens. C'est donc, une fois de plus, c'est pas pour me moquer en réalité, mais l'idée de se crisper sur un langage, ne pas vouloir qu'il bouge, mais c'est parce qu'on a en tête le modèle de l'écrit. Et à l'écrit, on se voit pas penser. Voilà, donc en fait, tout simplement, pour le dire hyper simplement, quand on s'écrit, enfin, je veux dire, sur les modèles anciens d'écriture, c'est-à-dire nos mails bien écrits, nos lettres, etc., les livres imprimés, voyez, dans mon livre imprimé, normalement, vous ne me voyez pas écrire. A priori, j'ai à peu près corrigé les façons d'hésiter, etc. Mais parce que j'ai eu un brouillon, parce que j'ai bougé mon texte, j'ai fait des copier-coller, j'ai coupé, j'ai réécrit, on m'a corrigé mes erreurs d'orthographe, pas moi d'ailleurs, mais les correctrices. Voyez, donc, vous avez un texte qui vous arrive et il est merveilleusement ordonné. Mais quand je parle, là d'ailleurs je digresse beaucoup, je sais c'est ma façon de penser, c'est pas terrible à suivre d'ailleurs, désolée. C'est-à-dire qu'en fait, je réfléchis en même temps. Ah tiens, ben, je voulais dire ça, je reviens. Et donc dans une conversation animée, j'ai besoin de toutes sortes de mots qui vont disparaître de l'écrit, mais c'est une illusion, vous voyez. L'écrit est l'illusion d'une pensée bien ordonnée. En fait, c'est le résultat final à l'oral. Surtout quand il y a mon corps qui me gêne parce qu'il est là, il a des émotions. Ah, d'un coup, j'ai chaud, j'ai froid, je pense à autre chose. Ah, je dois aller acheter vous voyez, je dois acheter le jambon pour le sandwich de mon fils qui part. Hop, voilà, on est parasité par toutes sortes de pensées. Et donc, je veux dire, bah, du coup, je veux dire, ah oui, attends, bon, bah, on en était où? Bon, bah, voilà, on va arrêter d'en parler. Vous voyez, j'ai des mots qui structurent. Et ce qui est génial, c'est que j'ai des collègues qui travaillent sur ce type de mots-là, qui, nous, on appelle des marqueurs de discours parce qu'en fait, ils servent à. Il nous aide à structurer notre pensée et puis aussi à vous capter votre attention. Par exemple, là, je vois peut-être vous avez votre regard qui allait à côté parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous dit « Attends, mais ça fait trois quarts d'heure qu'elle parle de ça, je ne vais pas poser cette question. » Merde, elle parle beaucoup trop. Donc vous aussi, vous avez ça et moi, je regarde votre regard parce qu'il y a 3000 autres indices qui me disent « Mais est-ce qu'elle m'écoute? Elle en a marre? Est-ce qu'elle se dit « Je vais poser quand est-ce que je pose ma question? Il est trois quarts d'heure. » Voyez. Donc en fait, tout ça, on est des humains et j'essaie de décoder vos regards aussi, vos postures. J'ai toutes sortes de signes que je capte. Et je vais construire mon raisonnement. D'ailleurs, ça, c'est un autre truc génial que ma collègue Maria Candéa m'expliquait l'autre jour. C'est qu'en fait, mon regard, la personne qui parle, son regard, il part vachement plus. Parce que je réfléchis en même temps. Je suis envoyée, machin, et hop, mon regard part. Alors que vous me regardez beaucoup plus. Beaucoup plus. Parce que quand on écoute,
bien sûr,
ben, on a moins d'action, on a moins de réflexion à faire. Donc, on peut avoir le regard qui va là, on réfléchit moins. Mais oui, en effet, quand on prend la parole, on réfléchit. Donc, tout ça, c'est pour conclure sur les tics, les fameux tics de langage qui font l'objet d'un de mes textes. Pourquoi j'essaie d'encourager les journalistes à arrêter d'employer cette expression tic de langage que moi-même, j'ai mea culpa maxima beaucoup utilisé au début parce que je trouvais qu'on pouvait dire oui, voilà, il y a des tics, on les dit souvent, mais on en a besoin. Et maintenant, j'arrête de dire tics parce qu'en fait, les gens se culpabilisent avec cette expression. Or, c'est juste des expressions dont on a besoin à l'oral pour construire nos discours. Et si on les remplace, il y en aura d'autres qui viendront. Voilà, donc ça, c'est le passage sur du coup où Jules a dessiné cette girafe avec son cou et dessin que j'adore, autre dessin très poétique. Genre, tu crois qu'ils vont parler du coup de notre cou, quoi? Voilà, et en fait, ben, du coup, on en a besoin. C'est le mot aujourd'hui qui permet, qui a certes beaucoup d'emplois distincts en réalité si on les étudie, si les linguistes les étudient, c'est-à-dire qu'ils embrayent sur une situation. Par exemple, vous trouvez que je parle trop sur quelque chose, du coup, vous voulez bien parler d'autre chose, voyez, vous rebondissez. Et puis, ou alors, il y a les du coup qui connectent. Voilà. Donc, il y a plein d'emplois, de fonctions spécifiques de ce type de mots qui sont nécessaires, en effet, à l'oral parce qu'on réfléchit en même temps qu'on parle. Et juste pour finir sur les textos, etc., les SMS qu'on se fait en temps réel, ça, ce qui est très nouveau. Et en effet, du coup, il y a plus de marques de l'oralité dans ces échanges. C'est la temporalité. C'est la révolution de ce 21e siècle, clairement. C'est qu'on s'écrit en même temps, avec la même urgence qu'on se parle. Et donc, on laisse plus de petites coquilles. Oui, on revient, on corrige pas parfois. Donc oui, il y a plus d'hésitation, il y a plus de ce qu'on appelle de la disfluence. Et ça mène à vraiment répondre à votre question 20 minutes plus tard, Sylvie. Ça va vous dépêcher. Je sais que vous avez commencé avec le vocal et je finis sur le vocal, car j'ai digressé, mais je sais qu'il y avait le vocal au départ. Le vocal, j'aime. Oui, j'aime parce que moi, j'aime entendre les voix des amis et ça ne me dérange pas qu'ils hésitent et qu'ils reformulent. Alors, je sais que c'est très énervant quand on reçoit un vocal et qu'on est dans une situation professionnelle où on n'a pas le temps. Et je trouve ça vraiment marrant qu'on soit là à les écouter à 1,5 fois plus vite, voire 2. Je comprends qu'il y a une sorte d'aporie du vocal à un moment. Je comprends, je ne suis pas complètement débile. Mais c'est vrai que, bah ouais, puis moi, je cours partout à mes rendez-vous. Et c'est vrai que c'est très pratique aussi de pouvoir ne pas taper et de pouvoir laisser les vocaux. Voilà.
Alors, je fais une petite parenthèse pour vous expliquer que si je regarde derrière vous de temps en temps, c'est parce qu'il y a une horloge et qu'effectivement, je regarde le temps que nous avons encore.
Et je vais pouvoir vous demander. Regardez l'horloge.
Voilà. Mais je vous explique du coup, puisque comme vous ne le saviez pas, c'est rigolo, parce que vous pouvez effectivement imaginer des tas de choses. Bon, bah du coup, oui, maintenant, vous avez la réponse. Et la dernière chose que je voudrais aborder avec vous, c'est que finalement, vous êtes la personne idéale pour nous raconter ce qui se passe dans la langue française, justement parce que vous êtes vous-même en mouvement, tel que vous venez de nous le montrer. Vous êtes vous-même, en fait, pleine de joie de parler, tout en réfléchissant, tout en même temps en essayant de trier les informations, tout en disant, mais en même temps, c'est pas grave, vous m'avez compris, vous voyez bien où je veux en venir. Donc, finalement, ce que vous nous montrez, c'est que la langue est incroyablement vivante. Et du coup, ce sera ma dernière question. Que pensez du dictionnaire aujourd'hui, puisque le dictionnaire est quelque chose de figé, de posé, même s'il est revu tous les ans, alors que vous venez de nous faire la meilleure démonstration du monde, celle du mouvement pour la langue française.
Écoutez, d'abord, merci de dire ça, vous êtes trop mignonne. Et surtout, vous avez beaucoup utilisé votre corps pour le dire, vous aussi. Ça y est, vous êtes gagnée par le mouvement. Vous voyez, c'est super. Ensuite, non, mais les dictionnaires, en fait, je ne remets pas du tout en question l'utilité des dictionnaires. D'ailleurs, vous savez que le chapitre, je me suis moquée du dictionnaire de l'Académie parce qu'il était désuet, il a mis 30 ans à s'écrire, donc le jour où il sort, il est périmé. Donc, c'était pour dire ça. Ne dites pas qu'il reflète la façon dont on parle aujourd'hui. Un dictionnaire qui n'avait pas bisous dans ses pages, je trouvais que c'était quand même problématique. Mais néanmoins, les dictionnaires, j'adore. Hein. Il faut savoir que moi, j'adore les dictionnaires. En gardant en tête ce que vous venez de dire, qu'un dictionnaire est comme une photo, un instantané de la façon dont parlent les locutrices et les locuteurs d'une langue à un moment donné. Il est aussi un choix éditorial. Donc, il y a de l'éditorial dans un dictionnaire. Donc, il ne faut pas oublier ça non plus, qu'il y a certains dictionnaires qui, si on étudie la temporalité des dictionnaires, comme l'ont fait mes collègues Médéric Gascassirus et Christophe Rey, hein, je fais de la pub pour leur bouquin, allez donc, ils ont fait un bouquin super sur les dictionnaires l'année dernière. Et en fait, on voit très bien qu'il y a des choix, bien sûr. Donc, il y a des dictionnaires qui sont plus patrimoniaux, historiques, qui ne veulent pas trop, qui mettent un peu plus de temps, qui ont une temporalité un peu plus longue, et lente pour faire entrer des mots. Et puis, il y a ceux qui sont contents de mettre les nouveaux mots et d'être à jour, on va dire. Mais c'est magnifique, les dictionnaires. Moi, j'adore lire des définitions. J'adore regarder cet effort des lexicologues, des lexicographes, qui est un métier, évidemment, à part, et de définir de la façon la plus neutre possible un mot à un moment donné. Je trouve ça magnifique. Non, j'adore les dictionnaires, mais c'est vrai qu'idéalement, faudrait, disons, avoir un nouveau dictionnaire tous les 10 ans, et encore, il y en a, je sais pas, je voudrais pas dire de bêtises sur les statistiques. Je pense qu'il y a un renouvellement peut-être de 20% tous les 10 ans, ou peut-être faudrait que je demande à des lexicologues avant de dire des chiffres comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le dictionnaire est un objet que je trouve magnifique. Je trouve que c'est une autre façon de rentrer dans la langue, de le feuilleter. Moi, je trouve toujours merveilleux de connaître aussi peu de mots du français quand je regarde des dictionnaires. Il y en a plein que je ne connais pas. Mais il faut garder en tête que c'est donc un choix éditorial, que c'est à un moment donné. Et puis, il faut garder en tête quelque chose. Moi, ce qui m'agace un petit peu pour les fétichistes du dictionnaire, mais dont je viens de dire que je suis un petit peu, hein, donc tout ça est paradoxal, encore une fois, c'est que ça réduit, enfin, c'est qu'une partie de la langue. En fait, le lexique est une petite partie de la langue. Et ça, tout le monde nous interroge tout le temps. Je dis ça sur les journalistes, c'est un peu une lassitude qu'on a dans mon collectif, par exemple, des linguistes atterrés, parce qu'on nous dit « Ah, venez commenter les nouveaux mots !» Et tout le monde s'excite au moment de la sortie des dictionnaires en mars. « Ah, venez nous dire ce que vous pensez de ce nouveau mot !» et tout. Voilà, ouais, ok, bon, le lexique, c'est, ça fait partie de la boîte à outils, mais il y a la grammaire, quoi. Il y a la grammaire. D'ailleurs, je fais aussi de la pub pour le livre qui vient de sortir de ma collègue Anna Bayer, qui a sorti « La grammaire se rebelle », qui est un super livre. Il y a la syntaxe, et on est compétents, nous qui parlons le français, tous les francophones du monde entier sont très compétents en grammaire aussi. Donc, il y a les mots grammaticaux. Les mots les plus fréquents, c'est les mots grammaticaux. Hein. C'est les prépositions, sur, de, c'est les articles, le, vous voyez. C'est... Donc, en fait, il y a des mots grammaticaux et des mots lexicaux. Nous, on fait cette distinction au premier cours de linguistique, vous voyez. Et donc, on parle beaucoup, un peu trop, on s'énerve un peu trop sur la dictée, l'orthographe et les dictionnaires en France. Et si on se détendait pour dire, ah oui, une langue en mouvement vivante, y a le lexique, il y a la grammaire, il y a les variations. Là, on aurait un paysage plus souriant, plus joyeux, plus en mouvement, en effet. Voilà, le lexique, s'intéresser au dictionnaire ne nous aide pas à avoir une vue d'ensemble sur ce que c'est qu'une langue vivante. Ah bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est un travail qui ne s'arrêtera jamais et c'est un plaisir aussi. Voilà, j'aimerais que ce soit un plaisir surtout qu'il n'y ait pas de douleur. Je trouve ça absurde, absurde et trop dommage que les enjeux liés aux Français soient souvent des questions de crispation et de désagrément, voire de douleur, voire d'exclusion. Et je voudrais pacifier cet espace.
Eh bien, un peu comme nous venons de le faire, comme une sorte de représentation d'une grande fête générale, voilà, avec plein d'invités.
Voilà, une grande fête.
Je vous remercie infiniment, Julie Neveu.
Et moi aussi.
À bientôt, j'espère.
À bientôt, Julie, moi aussi. Au revoir, bonne journée.
Au revoir.